Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Sauriez-vous lire dans un rôti cochon ? La bibliothèque d'un lycée devait être, en 1804, composée de 1500 volumes. Cette information provient d'un avertissement adressé par Fourcroy, conseiller d'État chargé de la direction et de la surveillance de l'instruction publique, à M. Philippon de la Madeleine. Ce dernier venait de publier un ouvrage aussi utile qu'agréable, je cite, « Véritable présent fait à la jeunesse de nos écoles ». Voici un compliment bien tourné que nous ne trouvons plus guère imprimé dans les livres destinés aujourd'hui à l'éducation. Louis-Philippon de la Madeleine, qui vécut de 1734 à 1818, s'était déjà fait remarquer en 1783 en publiant un petit ouvrage intitulé « Vue patriotique sur l'éducation du peuple ». Une authentique révolution celle-là, car ces vues esquissent une organisation de l'enseignement élémentaire, de la lecture urbaine et rurale, et contiennent la première sélection de lectures à l'usage du peuple, disent les dictionnaires. On n'avait pas attendu le siècle des Lumières pour tenter d'apprendre aux enfants à lire, base de tout enseignement. Sans remonter jusqu'à Plutarque, dont l'édition princeps de son traité d'éducation et nourriture des enfants fut imprimée à Paris en 1509, nous pensons immédiatement, en songeant au livre d'éducation, à celui destiné à Henri de Bourgogne, composé par Érasme. De Civilitate Morum Puerilium, imprimé à Bâle en 1530, qui servit de référence à plusieurs générations. Et pendant qu'Erasme exerçait ses talents en Allemagne et à Bâle, Jacob Wilfleling, alors doyen de l'université de Heidelberg, songea à la pédagogie en publiant plusieurs ouvrages, dont Diatriba de Proba Puerorum Sessione, Elegantiae Majores, Rhetorica eiusdem pueris ultissima, associé à Strasbourg en 1516, et aussi Rhetorica eiusdem pueris ultissima, et surtout Adolescentia, à Strasbourg en 1515, un nom prédestiné. En fait, brosser l'esquisse de la librairie scolaire de la France d'Ancien Régime est une gageure, à première vue paradoxale. En effet, l'un des matériaux les plus massivement imprimés, l'un des plus inertes, dans sa forme comme dans son contenu, est en même temps l'un des moins bien conservés. Alors, faute de bibliographie complète, il reste à l'amateur de puiser au hasard et de conserver avec soin les quelques rares catalogues de libraires et de ventes spécialisées. Et nous avons sous les yeux l'exemple du fameux rôti cochon. Celui-là est ce que l'on nomme un merle blanc. Allez donc tenter de trouver sur la branche d'un arbre. Et si par hasard cet oiseau introuvable surgissait, comment je rentrerais-il ? Nous serions bien en peine de le savoir. La bibliographie compte elle aussi plusieurs merles blancs, l'introuvable. Les bibliophiles savent qu'il existe, mais ne l'ont jamais vu, ou une fois seulement, et rêvent de le posséder. Ce qui est bien propre d'un collectionneur. Rôti cochon est de cela. Avec un titre pareil, toutes les convoitises sont permises. On ne connaît de son édition originale qu'un seul exemplaire, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, et pas un autre. Cet ouvrage dont le titre complet est « Rôti cochon » ou « Méthode très facile pour bien apprendre les enfants à lire en latin et en français » par les inscriptions moralement expliquées de plusieurs représentations figurées de différentes choses, de leurs connaissances, très utiles et même nécessaires, tant pour la vie et le salut que pour la gloire de Dieu. Il fut imprimé à Dijon par Claude Michard, sans doute vers 1676. Les exemples de cet abécédaire illustré de gravures sur bois, fort naïves mais fort expressives dans leur naïveté, sont empruntés au vocabulaire de la cuisine et de la gourmandise. Vin, fruits, beignets, gaufres, noix, œufs, frais, bien sûr, poisson rôti, jambon de pourson, lièvre en pâté, caille, chapon, bouilli, tête de veau et, bien sûr, cochon rôti. De quoi mettre en appétit tous les enfants pour lesquels cet ouvrage fut composé pour les inciter à pratiquer la lecture. Son auteur anonyme comptait sur les préceptes moraux de ce livre pour maintenir le bon naturel de l'enfant gracieux et courtois ou corriger l'inclination mauvaise de l'enfant. Mais comment utiliser un tel manuel si aucun exemplaire n'était disponible ? C'est la raison pour laquelle le baron Pichon, qui vécut de 1812 à 1896, proposa à ses confrères de la très élégante Société des Bibliophiles François « Nous devons réimprimer Rôti Cochon ». Il n'y ait pas de haut de cœur, tous ces amoureux des livres en rêvaient de ce Rôti Cochon-là. La société fit appel à l'imprimeur Morgan qui réalisa un fac-similé. Rôti Cochon vit à nouveau le jour en 1890. Les membres de la société se réservèrent 30 exemplaires sur un beau papier vergé de Hollande, Van Gelder, laissant les 300 autres sur papier de bonne qualité à d'autres bibliophiles choisis. Autant dire que cette nouvelle édition est devenue presque aussi rare que la première. Cet abécédaire gourmand est une véritable description du pays de Cocagne. Ce pays ainsi représenté avec ses alouettes rôties, ses montagnes de beurre, ruisseaux et rivières de miel, vin et lait, ne se découvre qu'aux gens d'esprit lesquels par le science sont bien élevés, venus et reçus partout, expliqué dans ses préfaces le bibliographe Georges Vicaire, lui aussi membre de la société, qui semblait goûter encore la saveur des sucres en pain. À notre tour de tourner une des pages, d'y lire un aphorisme en latin, convivas familiares convoca, invite les plus familiers à banqueter. De regarder au-dessous d'une figure montrant un cochon tournant à la broche et d'apprécier une maxime qui aborde tous les gourmands du cochon rôti, vive la peau étant chaud.